Bonjour.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission de ce mercredi 21 octobre, une émission qui a lieu de 13h30 à 14h30 sur Divergence FM, avec une rediff le même jour de 18h à 19h. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous ne parlerons pas encore du petit Nicolas. Hein, personne n'a prévu le coup, la chronique là-dessus.
Non, tout à non. fait. Ni non plus du dernier film de Gérard Jugnot, hein. À moins que l'un de vous l'ait vu.
Non. Non plus, pas non. de chronique surprise, on n'a rien à craindre de ce côté-là. Donc on va développer le sommaire.
Oui, bah, très bien, alors je commence. Bah, cette semaine, on va surtout parler de films qui sortent aujourd'hui en salle. C'est assez rare pour être signalé. Moi, je vous parlerai d'un film d'animation, donc Pierre et le Loup, qui sort aujourd'hui, mais qui est en boîte depuis 2006. Et je vous parlerai aussi du dernier film de Guy Madin, Winnipeg, mon amour.
Et pour ma part, eh bien, je vous parlerai effectivement d'un film qui sort aujourd'hui en salle, un film mexicain qui s'intitule Sin Nombre de Cary Fukunaga. Et puis, par contre, j'enchaînerai avec un film qui lui est sorti la semaine dernière, par contre. C'est donc la suite de The Descent, donc The Descent Part 2. Voilà, donc le premier était réalisé par Neil Marshall. Celui-là, c'est John Harris, un poulain de Neil Marshall, en fait, qui l'a réalisé. Et ça me donnera surtout donc, l'occasion de parler du premier opus, qui était vraiment une bonne claque pour les amateurs de films de genre, tandis que le 2, eh bien, fait plus office de pâle copie du premier.
Alors moi, j'aurais pu parler en exclu aussi d'un film de Simone Béton qui s'appelle Rachel, un documentaire, film documentaire qui se passe du côté de Gaza. Il se trouve que j'ai oublié tous mes sons chez moi, voilà, en partant précipitamment pour faire avec bonheur cette émission. Donc ce sera point la semaine prochaine. En revanche, j'ai calé tous mes sons pour faire un petit point sur la filmo d'Haneke et pour parler du ruban blanc Palme d'Or à Cannes cette année. Et donc, il y avait une petite avant-première la semaine dernière au Diagonal, il sort aujourd'hui. Et puis on parlera aussi avec Jean-François Bourgeot et du Cinémed, Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, qui débute ce vendredi avec une grande avant-première, celle de
Amenabar
avec le film Agora. Donc Jean-François Bourgeot nous expliquera de quoi il retourne pour ce film. Et voilà, mais ça c'est si on a le temps, on passera tous les sons. Et donc c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite l'émission. Sur le chapeau de roue, hein.
Très bien. Donc, la semaine dernière, on vous avait parlé dans cette émission avec Boris d'un film d'animation actuellement au cinéma qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Donc, c'était Marie et Max de Adam Elliott qui jongle avec talent entre humour et émotion et qui nous raconte l'aventure épistolaire que vont vivre pendant plus de 20 ans une petite fille australienne solitaire et un cinquantenaire américain lui aussi seul au monde. Donc un très joli film qui n'est toutefois pas vraiment à recommander aux petits puisque d'une part il est diffusé uniquement en anglais sous-titré et que d'autre part il dure 1h30 et enfin les sujets qu'il aborde ne sont pas particulièrement accessibles ou intéressants pour les jeunes spectateurs. Mais bon, cette semaine, voilà que déboule sur nos écrans un autre film d'animation qui mérite lui aussi le déplacement et qui pourra être vu par toute la famille. Donc il s'agit d'un court-métrage d'une trentaine de minutes réalisé par Susie Templeton qui adapte une nouvelle fois pour l'écran l'histoire de Pierre et le Loup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce conte musical, Pierre et le Loup a été écrit et mis en musique en 1936 par Sergueï Prokofiev et il avait pour but d'initier les enfants aux principaux instruments de musique de l'orchestre.
Pierre et le Loup, conte musical pour enfants. Chaque personnage de ce conte est représenté par un instrument différent. L'oiseau par la flûte. Le canard par le hautbois. Le chat par la clarinette.
Mmh.
grand-père par le basson. Le loup par trois corps. Pierre par le quatuor à cordes. Les coups de fusil par les timbales et la grosse caisse.
Un extrait donc de la version sonore de ce conte, narré par Karl Böhm et interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Alors l'histoire de Pierre et le loup nous fait voyager en musique à la suite de Pierre, un petit garçon téméraire qui va se retrouver confronté à un loup affamé qui croquerait bien le petit garçon et ses amis à poils et à plumes pour son 4 heures. Alors ce conte avait déjà été adapté en court-métrage d'animation par Clyde Geronimi pour les studios Disney en 1946, et dans cette adaptation qui utilisait les techniques traditionnelle du studio, à savoir l'animation en 2D sur cellulo, eh bien le conte de Prokofiev avait été quelque peu modifié pour coller à l'esprit Disney. Alors ça avait été diffusé pour la première fois en 1946 avec la sortie en salle de Make Mine Music, donc une anthologie composée de 8 petits films musicaux produits par les studios Disney. Et bon, ce court-métrage avait ensuite été pressenti pour venir compléter une des nombreuses ressorties en salle de Fantasia, mais bon, sans que cela ne se concrétise apparemment. Alors d'après l'encyclopédie en ligne Wikipédia, il existerait une autre adaptation en film d'animation de ce conte. Un film qui aurait vu le jour en Russie en 1958, une production des studios Soyuz Multfilm, donc réalisé avec des marionnettes par Anatoly Karanovitch. Donc malheureusement, je n'ai pas trouvé de confirmation de l'existence de ce film en dehors de cette source, même si bon, le studio russe existe et qu'il est en effet spécialisé dans l'animation et dans la marionnette. Alors par contre, en 1996, et ça c'est véridique, une autre adaptation du conte a été mise en chantier et la partie d'animation de ce court-métrage a été confiée à Chuck Jones, donc un des plus célèbres animateurs de l'âge d'or des studios Warner, collaborateur de Tex Avery, entre autres, et créateur des personnages de Bip Bip et Ville Coyote. Donc si le film était à l'origine destiné exclusivement à une exploitation télé, il est aujourd'hui possible de le trouver en DVD. Mais bon, malheureusement, l'animation est assez rudimentaire et le manque d'ambition du projet en font un film assez moyen, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Donc Le Pierre et le Loup de Suzy Templeton serait donc la quatrième adaptation en animation du conte de Prokofiev. Donc recourant aux marionnettes et à l'animation en volume, la réalisatrice a donné à cette histoire une richesse visuelle et un réalisme qui a su séduire les spectateurs dès sa diffusion en 2007 au Festival d'Annecy, où il a reçu le Grand Prix du court-métrage, puis lors de son passage sur Arte la même année, et enfin à la cérémonie des Oscars 2008, où il a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Donc ce film a nécessité 5 ans de travail acharné qui ont été nécessaires à la construction des décors, dont l'un qui atteignait quand même la taille phénoménale de 350 mètres carrés. Donc temps nécessaire aussi à la fabrication des marionnettes entièrement réalisées à la main et au tournage qui s'est avéré être une entreprise assez colossale avec des mouvements de caméra dignes d'une production en images de synthèse. Donc voilà, l'esthétique mise en place par Suzy Templeton évoque aussi bien Henry Selick et l'étrange Noël de Monsieur Jack ou l'univers baroque de Tim Burton, comme cette forêt très Sleepy Hollow dans laquelle s'aventure le petit Pierre, que eh bien, ça évoque aussi le cinéma plus réaliste avec une atmosphère globale sinistre et glaciale. La cabane dans laquelle vit Pierre et son grand-père ainsi que la ville voisine viennent ancrer le film dans une démarche qui va au-delà de la simple adaptation, mais qui se veut aussi une réactualisation de ce conte. Donc la fin du film, elle aussi, vient un peu bouleverser l'histoire originale pour nous délivrer un message plus contemporain, apporter une dimension supplémentaire à caractère écologiste à ce conte didactique. Donc voilà, l'absence totale de dialogue aussi ou de récitant permet à la musique de prendre toute sa puissance narrative et de sublimer ces personnages que nous avons l'impression de redécouvrir comme s'il s'agissait de vieux jouets qu'on n'avait plus vus depuis notre enfance. Donc au final, Pierre et le Loup nous entraîne en quelques minutes dans un univers de toute beauté à la suite de personnages particulièrement photogéniques et attachants et nous fait redécouvrir cette histoire et cette merveilleuse partition composée il y a plus de 70 ans et qui n'a pas pris une ride. Donc voilà, à voir sans hésiter, à noter que eh bien, ça sort au Diagonale et que le prix pour tous, vu que c'est un film de moins d'une heure, ce sera 3,70€.
C'est l'effort.
Voilà, donc par contre en horaire variable. Mais n'hésitez pas, foncez, ça vaut vraiment le coup.
Merci Martin, on passe à un gros morceau qui n'a rien à voir avec le film d'animation mais qui a à voir avec les enfants, c'est Le Ruban Blanc, dernier film de Michael Haneke. Alors Palme d'Or à Cannes, préféré notamment à Inglorious Bastard, sans doute à l'opposé du cinéma de Tarantino, Le Ruban Blanc est un film implacable comme c'est les fers Haneke. Alors la seule fantaisie qui ait pu se permettre Haneke est sans doute la redite de Funny Game tournée en version autrichienne qui deviendra quelques années après Funny Game US pour un même résultat en plus clinquant. Alors, c'est la famille qui soutienne véritablement les films de Michael Haneke. Et avant de parler du Ruban Blanc, bien, je vais vous parler un peu de ses films précédents. Alors, dans Le Septième Continent, son premier film, il s'agit d'une famille bourgeoise qui décide de se couper de toute vie sociale au risque de s'anéantir totalement en rêvant au Septième Continent figuré par un poster dans leur appartement. Et ça se termine mal. Famille bourgeoise aussi dans Beniz Video, un film coup de poing qui regarde frontalement, avec le temps qu'il faut, la violence d'une décharge de pistolet électrique pour tuer le cochon. Benny, enfant unique de parents fort occupés ailleurs, voit ses images se réfugier dans le monde des représentations et sitôt qu'il tombe amoureux, eh bien ça se gâte parce qu'avec la réalité, Benny, il a beaucoup de mal. Dans son troisième long métrage, 71 fragments d'une chronologie du hasard, il agrandit le cercle familial en évoquant toutes les générations, de l'étudiant au vieil homme seul, abandonné et nié par sa fille, en passant par une mère qui adopte un petit roumain. Tous ces personnages croqués dans ces fragments, 71 donc, vont se retrouver liés dans une scène finale. C'est la forme la plus rude du film choral que je connaisse. Chaque fragment, donc séquence, est entrecoupé par un noir, un film déjà donc implacable. Chaque séquence, à mesure qu'on avance dans le récit, va créer une espèce de situation cataclysmique hasardeuse. Mais Haneke va nous montrer que seule la réunion des personnages est hasardeuse. La violence qui l'organisera sera, elle, déterminée par, disons, un gros mot, la société. Les règles, la socialisation, la hiérarchisation, le succès, et ainsi de suite. Alors ce film, selon moi, n'a pas pris une ride, sa forme est singulière et son propos toujours d'actualité. Ses fragments de vie sont le seul moyen d'englober la réalité. Disons qu'Haneke ne se met pas dans la posture d'un réalisateur qui sait et va vous dérouler une histoire où il vous enferme. C'est exactement d'ailleurs le contre-pied de ce qui est à l'œuvre dans Funny Game, où Haneke s'amuse à montrer la manipulation du spectateur, comment le déroulement d'un récit dans un film d'horreur conduit le spectateur à ne plus appréhender la réalité. Tous les éléments qu'il voit apparaître semblent aller de soi, les victimes, les bourreaux, on présente des mobiles aux tueurs, pourquoi pas des circonstances atténuantes, et tout ça s'articule dans un récit cohérent, car fictionnel. Et donc Haneke démonte ce processus. En ce sens, Haneke est un réalisateur qui ne s'appuie sur aucun dogme et qui ne s'approprie pas le sens critique du spectateur. C'est plutôt bien. On va faire une petite pause avec simplement un élément sonore de 71 fragments d'une chronologie du hasard. Là, c'est le héros du film qui joue au ping-pong avec une machine qui lui envoie les balles. La séquence normalement dure 2 minutes 30. Je vais vous en épargner une bonne partie. Voilà, je vous en ai donc épargné une grosse partie. Voilà, c'était donc un des fragments des 71 de ce film que je vous conseille en DVD. On passe vite sur le premier Funny Game en 98 pour retrouver notre Michael en France avec des acteurs français dont Juliette Binoche et un film où la violence va disparaître. C'est Code Inconnu. Ce Code Inconnu faisant référence à l'impossibilité de communiquer déjà à l'œuvre dans ses précédents films. Un film tourné en plusieurs plans séquences à la manière de 71 fragments. Le réalisateur déblaie le sujet pour laisser au spectateur un certain nombre de clés et le cinéma d'Haneke est toujours réflexif sans être intellectuel. C'est ce qui fait qu'il est d'ailleurs un cinéaste. C'est au moyen des images, d'une narration qu'il emmène son spectateur dans la réflexion. Et pour vous, chers auditeurs, j'ai trouvé le code.
Exactement 48 minutes, j'ai rendez-vous important. Alors s'il te plaît, ménage ma petite âme qui a été bien malmenée. Je te donne les clés. Le code, c'est 48B13. J'étais un peu fatiguée. Tu peux t'allonger sur le canapé dans le salon. Moi, je reviens vers midi. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, tu connais mon appartement. Il n'y a pas la place pour toi. C'est clair, ça, pour toi? C'est clair? Tu te souviens du code?
Ouais.
Ciao.
Et toi, Martin, parce que Boris n'écoute pas, tu as retenu le code?
Je sais pas, 48B3?
B13, je
crois. B13, ah.
Voilà, donc Code Inconnu, donc un film aussi que je vous recommande. On a entendu Juliette Binoche. En 2000, Haneke...
Si, j'écoute.
Oui, mais tu seras capable
qu'est-ce de... Que,
alors le numéro de code. Donc, il va rester inconnu pour toi. En 2000, Haneke tourne La Pianiste. Alors, pas Le Pianiste de cet Attrapé de Justesse de Polanski. Alors, au casting des Français encore, tous névrosés, cette fois-ci avec Isabelle Huppert qui incarne Erika Kohut, la quarantaine, honorable professeur de piano au Conservatoire de Vienne, célibataire endurci qui vit une sexualité débridée, n'hésitant pas à épier les autres, à aller au pipe show, tout en s'infligeant des douleurs par pur masochisme. Elle a une mère possessive, Annie Girardot, avec qui elle entretient des rapports houleux. Et il y a Walter, un de ses élèves qui va tomber amoureux de cette femme. Une relation maître-esclave perverse va se nouer entre le prof et son élève. Beaucoup d'images fortes, insoutenables, diraient certains. Le tout dans une ambiance aseptisée. On ne sort pas tranquille de cette salle de cinéma où s'est déroulée une relation amoureuse pour le moins hors norme. Alors, carton plein à Cannes 2001, prix d'interprétation masculin et féminin, et prix du jury. Donc, le prix du jury, c'est ce qu'il y a juste avant la palme. Et on va écouter un extrait de La Pianiste.
Arrêtez. Revenez au début. Vous n'avez pas l'air de vous intéresser beaucoup aux indications de jeu. Qu'est-ce qui est écrit, là?
Piano.
C'est exact. Et puis?
Forte piano.
Et puis?
Et pianissimo.
Et diminuendo, et mezzo forte, forte, fortissimo, sfrontatissimo. Les indications de Schubert vont du cri au murmure, et non de parler fort à parler doucement. L'anarchie ne semble pas être votre fort, Clémère. Pourquoi ne pas vous en tenir à Clémenti? Schubert était un type assez laid. Vous le savez, non? Ouais, avec votre physique, vous ne reconnaissez pas un abîme lorsque vous y tombez.
Pourquoi essayez-vous de détruire ce qui pourrait nous rapprocher?
Le maniérisme n'est pas une
menace. Voyez-vous pas que je ne peux pas vous regarder? Je ne peux pas vous regarder parce que si je vous regarde, je ne pourrais pas résister à la tentation de vous embrasser dans le cou. Puis-je vous embrasser dans le cou, Erika?
Isabelle Huppert et Benoît Magimel, donc pour ce film La Pianiste. Haneke retrouve Huppert et y ajoute Béatrice Dalle et Patrice Chéreau pour Le Temps du Loup, film crépusculaire où un événement dont on ne saura rien contraint les hommes et les femmes à retrouver un état de nature quand il n'y a plus de gouvernement de société. Comment les hommes s'organisent? Eh bien, c'est Le Temps du Loup, sans doute issu de la fameuse phrase de Hobbes, le philosophe anglais, l'homme est un loup pour l'homme, qui avait une autre phrase pour décrire l'état de nature. Je n'ai eu qu'une seule passion dans ma vie, c'est celle de la mort violente. Autrement dit, qu'on vienne chez moi, qu'on prenne ma maison et qu'on me tue. Et c'est ainsi que commence Le Temps du Loup. Alors depuis Funny Game, et donc à l'exception de Code Inconnu, Haneke en a fini des plans séquences. Il nous donne maintenant dans une grammaire cinématographique plus large, avec des champs contre champs et puis des hors-champs. Un cinéma sans doute plus classique, mais aussi plus rythmé. En 2005, c'est Caché, toujours tourné avec des Français. Il retrouve Binoche et intègre Daniel Auteuil. Alors comme Haneke a déclaré à Cannes, si vous écrivez sur le film bonne ou mauvaise critique, s'il vous plaît, ne parlez pas de l'histoire. Donc, comme Funny Game, ce film tire son pouvoir de la tension. Si on en sait trop, il en perd l'intérêt. Bien, je vais faire court, rappelant simplement que c'est l'histoire d'un homme de télé qui reçoit des cassettes montrant sa maison et sa famille. Il ne sait pas qui envoie ces cassettes et le découvrira. C'est un film sur la culpabilité avec en fond la guerre d'Algérie. Et c'est pas le meilleur à mon sens. C'est tout de même le prix de la mise en scène à Cannes 2005, un festival présidé par Kusturica. Vient ensuite donc Funny Game US, redite donc de la version autrichienne de 98, donc on va passer. Et enfin, Le Ruban Blanc, cette année, donc Palme d'Or à Cannes, après l'avoir toujours manqué de peu. Précisons de suite que Le Ruban Blanc est un film long, 2h20, qui devait être au départ une télésuite et qu'Haneke a finalement adapté à l'écran. Alors le réalisateur nous plonge dans un village du nord de l'Allemagne, dans une communauté protestante, à la veille de la guerre 14-18, où le baron a toutes les terres du village. Alors plusieurs phénomènes étranges se déroulent dans ce morne village. Un fil est tendu, notamment sur le passage du docteur à dos de cheval. Il y a aussi la mort étrange d'une femme dans une scierie. Il y a l'enfant du baron qui est retrouvé battu et ligoté, et j'en passe. Alors personne ne sait qui est responsable de ces forfaits. Un seul individu, plusieurs. Ça, on le saura peut-être ou peut-être pas. C'est avec cette trame qu'on écoute l'histoire de ce village racontée par l'institut de ce village devenu vieux. On y voit la rigueur protestante, on y voit la dureté de l'éducation donnée aux enfants, surtout de la part du pasteur, allant jusqu'au châtiment. La dévotion à un régime dont l'Europe commence à se débarrasser, c'est celui du baron et que personne n'ose contester. Alors il y a clairement un monde des adultes et le monde des enfants, avec des adultes qui, s'ils tentent d'inculquer des principes moraux ne sont pas forcément capables de les tenir. On pense qu'il n'y a pas plus prompt au vice que celui qui les condamne. Et les enfants, tous quasiment blonds aux yeux bleus, forcément, eh bien, vivent dans cette rigueur et s'amusent peu. Sans doute y a-t-il un autre exutoire que le plaisir du jeu. Haneke, petit à petit, nous donne des éléments de réponse avec son narrateur, puisqu'il s'agit de punir la faute des pères sur les fils. Donc, pour Haneke, eh bien, ce film, outre le témoignage qu'il fait sur une société tenue par des principes religieux au début du XXe siècle, laisse entrevoir le terreau d'où serait sortie la bête immonde, puisque ses enfants, victimes de brimades aussi inutiles qu'humiliantes, sont devenus les adultes de l'entre-deux-guerres. La mise en scène est limpide, les séquences s'inscrivent dans la durée, fidèle à son style, Haneke nous laisse entrevoir ici et là, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, des images violentes, mais moins fortes qu'à son habitude, la figure de l'inceste, celle du châtiment, celle de l'humiliation. Mais Le Ruban Blanc fait partie d'un des rares films qui n'est pas interdit au moins de 16 ans, et ça c'est bon de le rappeler parce qu'une bonne partie de sa filmo en fait est interdite au moins de 16 ans. Le noir et blanc, lui, nous installe plus facilement encore dans cette période, et le blanc des blés l'été se confond avec la neige l'hiver, marquant ainsi la monotonie de cette communauté qui connaîtra bien d'autres tourments par la suite. Voilà, donc je recommande évidemment d'aller voir ce film de Haneke, Le Ruban Blanc, sans doute peut-être même le, je ne sais pas si c'est le plus austère, en tout cas c'est peut-être le plus rigide et le plus classique de tous ces films. Voilà. Et qui est salué par l'ensemble de la critique et qui vraisemblablement méritait cette palme d'or et cette reconnaissance, autant pour une grande filmographie. Enfin, moi, j'ai vu tous les films de Haneke et je les recommande tous, sans exception. Voilà. C'est un pur styliste.
Tu as peut-être un peu raison par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Le Temps du Loup est quand même un petit peu en deçà quoi, de ce qu'il a réussi à faire.
Moi, c'était Caché.
Le Temps du Loup aussi. Non, mais effectivement, Caché aussi m'a assez ennuyé au final. Mais Le Temps du Loup, pareil, il n'était pas forcément non plus très maîtrisé sur la longueur. Quoi. Mmh. Après, ce qui est intéressant avec Haneke, tu parlais de violence tout à l'heure, c'est qu'il a une manière de la traiter qui est très particulière, parce qu'en définitive, il la montre jamais quasiment. Il la suggère la plupart du temps. Enfin, il montre des rapports violents entre personnes, ça oui. C'était présent aussi dans La Pianiste, par exemple. Mais par contre, il n'y a pas de débauche de violence à l'écran.
Disons qu'il ne la surmontre pas. Enfin, règle générale,
c'est plus psychologique.
Mais il y a quand même des images très, très violentes. Hein.
Oui, non, mais il y en a quelques-unes, mais c'est, ce qui reste en termes de violence, c'est quand même le fait qu'elle soit suggérée, que ce soit Benny's Video, qui est un peu l'introduction finalement de Funny Games, ou donc même Funny Games. Les scènes de violence sont même rattrapées par le montage et l'orientation du réalisateur. Quoi. Dans Funny Games, on se souvient nettement de cette scène où justement il y a un rembobinage à l'écran qui se fait et qui vient donc masquer cette violence montrée à l'écran. Quoi.
Et puis il y a des sons hors champ dans Funny Games. Quand le chien se fait abattre, on entend un coup de feu, on sait que c'est le chien. Enfin, voilà, mais ça, il pratique aussi bien le hors champ. Mais dans 71 fragments, c'est quand même, sans spoiler le film, c'est quand même donc issu d'un fait divers, où c'est un type qui, quand même, tue une vingtaine de personnes. Donc après, voilà, il le montre d'une certaine manière, mais ça reste des images plutôt saisissantes, quoi. Sinon, il ne serait pas interdit au moins de 16 ans, je ne pense pas, d'ailleurs. C'est parce que ça marque l'esprit.
C'est la portée de cette violence, de toute manière, je pense. Si on peut la résumer, en fait, le travail que fait Haneke qui justement amène des interdictions, quoi. Je pense, parce qu'effectivement, c'est assez troublant qu'elle soit montrée chez certains cinéastes ou même donc suggérée chez lui, ou même donc peut-être aussi montrée sur certains films. J'ai pas vu, moi, le 71 fragments, mais voilà, quoi. C'est ça, quoi, que je trouve assez intéressant.
Mais en tout cas, ça traverse en tout cas toute sa filmographie. Hein. Enfin, la violence et comment lui il arrive à la gérer. Effectivement, peut-être pas en la surmontrant. Enfin, c'est ça. Il y a toujours une image choc et c'est le cas dans le Ruban Blanc. Il y a un moment où les gens sont tu vois, ils sont devant l'écran, ils se disent bon, là il se trouve que pour Le Ruban Blanc, il n'en a fait qu'une vraiment saisissante. Mais voilà, c'est plutôt des séquences saisissantes que des images violentes. Parce que lui, il fait partie de ces cinéastes qui détestent la violence.
Oui,
en fait,
carrément.
Qui s'arrangent dans la mise en scène.
À plusieurs reprises, voilà. dans des entretiens qu'il donne à des
journalistes. Et qui n'est pas complaisant, surtout vis-à-vis de cette violence. C'était le cas dans Funny Game, puisqu'il mettait en cause la complaisance d'un cinéma hollywoodien pour la violence qui, au bout d'un moment...
Oui, des interrogations, sur le thème.
Enfin, parce que la fiction nous dit que lui, il doit être violent, il l'est, donc on ne se pose plus la question de savoir s'il a un cœur ou si je ne sais quoi. Enfin, voilà, il n'a plus d'histoire, ce personnage.
En tout cas, pareil, moi, je recommande aussi sa filmo, quoi. En tout cas, celle que j'ai vue, qui est quasiment exhaustive,
Alors dans le ruban blanc, il y a quand même des enfants et parfois il y a des petits moments de bonheur. Il ne faut pas croire que non plus Michael Haneke soit tout le temps austère. Il y a quelques petits moments de bonheur qui viennent éclairer cette sombre humanité. Voilà. J'avais prévu, on passe juste un extrait de la remise des prix. Voilà.
C'est avec une certaine émotion que je vous dis que la Palme d'Or est attribuée au ruban blanc de Michael Haneke.
Parfois, ma femme me pose une question très féminine. Est-ce que tu es heureux? Et c'est difficile à répondre parce que je trouve le bonheur, c'est une chose rare. Mais maintenant, je peux te dire, Suzy, c'est un moment dans ma vie où je suis vraiment très heureuse. Très heureux, toi aussi, je pense.
Et voilà, très troublé, Michael Haneke, donc qui recevait cette palme de la présidente du jury, qui a été son actrice à deux reprises. On a pensé qu'il y avait une petite... un petit avantage pour lui. Alors juste parce que je peux me permettre d'avoir une minute en plus, on va écouter sur cette histoire là. Il dit qu'il est très très heureux et qu'il sait pas ce que, enfin voilà, s'il a été heureux un jour. On va écouter justement un extrait de Code Inconnu. C'est le couple Binoche et avec l'autre acteur que je ne connais pas. Enfin, en tout cas, ils sont dans une supérette, ils sont en train de faire leur marché. Il y a une petite discussion houleuse qui se passe et puis ensuite, eh bien, écoutez ce qui se passe. Ils sont dans cette petite supérette.
C'est quoi ce cirque? Tu t'attends pas à ce que je te prenne au sérieux, hein?
Non, je m'y attends pas. Ouais. Georges. Oui. Dis-moi, t'as déjà rendu quelqu'un heureux? Allez, réponds. Réponds! Y a-t-il une seule personne que t'aies rendue heureuse dans ta vie?
Non.
Voilà, et Juliette Binoche qui lui tombe dans les bras, voilà, donc ça c'est un long plan séquence aussi, dans le Code Inconnu, long plan séquence qui se termine comme ça, voilà.
Eh bien on va passer à un autre type de violence qui elle par contre est complètement montrée à l'écran, c'est celle donc présente dans les deux films, The Descent et puis The Descent Part 2, donc je m'apprête à chroniquer. Alors il y a 4 ans de cela sortait du chapeau de Neil Marshall, le réalisateur de Dog Soldiers et de Doomsday, The Descent, un film qui allait donc marquer durablement les cerveaux dégénérés des amateurs de sensations fortes. L'histoire ne brillait pas particulièrement par son fond, enfoui à plusieurs dizaines de mètres de profondeur sous le plancher des vaches, mais permettait, en s'emparant de la spéléologie et du trou béant dans lequel six belles plantes allaient s'engouffrer, d'apporter au film d'horreur un souffle nouveau. Après La Forêt, avec pêle-mêle Détours mortels, Promenons-nous dans les bois et Blair Witch, La Campagne reculée avec Massacre à la tronçonneuse et Eden Lake, Le Désert aride avec La Colline à des yeux et Wolf Creek, il était plutôt bien vu d'innover en termes d'environnement naturel propre à accueillir le déroulement d'un énième survival. The Descent se passe dans un trou, perdu en pleine forêt des Appalaches. On se rendra compte très vite dans le film qu'il s'agit en réalité d'un des orifices d'une vaste grotte s'étendant sur des kilomètres de boyaux étroits sous le massif montagneux. Monnaie courante avec le survival, le spectateur plonge dans le film par le biais d'une folle équipée de jeunes et fraîches personnes inconscientes, adeptes d'expériences fun et extraordinaires. Alors rappelons à ceux qui ne jurent que par le cinéma français que le survival, c'est par exemple l'excellent Calvaire du presque français Fabrice Duvels avec Laurent Lucas, Jackie Berroyer et Philippe Naon. Donc sous-genre du cinéma d'épouvante, le survival fait se frotter un groupe de personnages plutôt sympas et naïfs à une menace extrêmement hostile qui va rapidement et consciencieusement se mettre à en amputer un à un les membres, jusqu'à ce que quelques-uns, et parfois et ben aucun, se sortent vivants de l'aventure. Dans The Descent, il s'agit, chose assez inhabituelle et efficace pour être soulignée, de 6 belles jeunes filles que le décès brutal du mari et de l'enfant de l'une d'elles vont conduire, afin de se changer les idées, à projeter et entreprendre une descente de spéléologie particulièrement audacieuse. Le film est rondement mené de bout en bout. L'introduction, quoique classique sur son fond, qui consiste en la présentation des personnages, nous est présentée d'une manière originale et du coup complètement immersive par le biais du visionnage des rushs du caméscope avec lequel ce film entraîne les copines. l'ambiance de camaraderie les unissant, l'esprit sportif, la compétence en alpinisme des instigatrices du projet sont ainsi rendues perceptibles et parfaitement digestes aux spectateurs, tout comme la nature et l'appréhension contrastée des différentes personnalités de l'équipe. Et puis c'est la plongée dans l'abîme, éclairée de façon rudimentaire par les lampes frontales, torches et lumières infrarouges du caméscope. C'est là un des aspects techniques les plus intéressants et efficaces du film, car plongé avec les héroïnes dans l'obscurité silencieuse et naturellement angoissante de la grotte, le spectateur aura son champ de vision limité à la lueur des faibles halos de lumière. Multipliant les gros plans aux angles variés, focalisés sur les filles, Neil Marshall va rendre évidente l'identification du spectateur au protagoniste et menaçante cette nuit opaque et éternelle où les parois humides et glissantes surplombent des précipices sans fond. Une sensation de malaise va ainsi peu à peu s'emparer du spectateur, tandis que les randonneuses vont passer difficilement de caverne en raidillon par le biais de boyaux étroits ou de cavités immergées. Ces conduits ne permettant le passage qu'à une seule personne de front, elles vont devoir se séparer temporairement à de multiples reprises. Le son, ou plutôt l'absence de son, va rendre encore plus tangible la sensation d'isolement et de claustrophobie des protagonistes, ainsi que l'impression de gêne qu'occasionne leur passage. Car dans cet antre insondable, le silence semble en être l'occupant et peu enclin à supporter la perturbation de sa tranquillité séculaire. Finalement, la tension semble prête à exploser lorsque la caméra commence à agrandir sa focale et que des formes humanoïdes se mettent à apparaître dans le dos des randonneuses. Elles ne sont pas seules. Clou du spectacle, la caverne est en fait peuplée de terribles créatures carnivores, attirées des profondeurs par le bruit du périple et des cris d'angoisse. On bascule dès lors dans le cauchemar le plus total et dans la quintessence du survival, où le plaisir mitigé des randonneuses s'arrête net au profit de la fuite désordonnée et funeste en terrain inconnu, où perte de lampes et scission de l'équipe ponctuent les combats désespérés et sanglants de réalisme avec les crawlers. Le spectateur ne sera cependant pas au bout de ses surprises, car Neil Marshall va poursuivre sa démonstration de maîtrise du genre par le soin donné à ses créatures, sa capacité à faire sursauter à chacune de leurs apparitions, et par le travail fait sur la personnalité des différents personnages que la nécessité va révéler et même faire exploser. Les Crawlers, véritable miracle d'adaptation au milieu nocturne, détiennent, au détriment d'une parfaite cécité, une acuité auditive tout simplement remarquable. Leur apparence repoussante et cadavérique n'a d'égal que leur férocité bestiale et leur aptitude à faire d'un corps humain un tas de chair sanguinolente. De leur côté, les protagonistes vont faire preuve de ressources assez inattendues pour faire face à leur peur et s'adapter au terrain de chasse des créatures monstrueuses. La tension ne saurait donc retomber à aucun moment dans ce film, ce qui mènera le spectateur le plus aguerri à ce genre d'expérience à tout simplement rester rivé aux accoudoirs de son fauteuil ou au choix de l'avant-bras de son infortuné voisin. Quelle tristesse donc que la suite de ce passionnant The Descent. Confié à John Harris et produit par Neil Marshall, The Descent Part 2 fait hélas figure de réchauffé du premier opus. L'histoire s'enchaîne immédiatement à la suite de The Descent lorsque Sarah, l'une des six filles, parvient à s'échapper. A noter que cette suite est celle de la version américaine, édulcorée, où effectivement s'en sortait une des filles. J'ai pour ma part vu la version européenne et je n'en dirai pas plus à ce sujet. Passons donc. Sarah s'en sort donc et est recueillie par un monsieur qui alerte immédiatement les policiers du coin de son retour. Mais voilà, en état de choc psychologique, la belle, couverte de plaies, ne se souvient plus de ses dernières 48 heures éprouvantes. Sitôt remise sur pied, le shérif local somme en revanche une équipe de 3 secoureurs de se joindre à eux pour tâcher de retrouver les 5 autres manquantes. Et hop, on replonge dans l'abîme, ce qui fait du film de John Harris une vaste blague. Alors, le film reste quand même malgré tout efficace, dans le sens où tout ce qui est un petit peu stressant et les coups de surprise qui étaient déjà présents dans le film de Neil Marshall et qui quelque part sont monnaie courante également dans les films de genre sont bien présents. Mais par contre, ce qui va rapidement se dessiner, c'est le vide sidéral du scénario et le fait que en dehors justement de ces moments un petit peu stressants, on n'en apprend pas plus finalement sur les créatures du film. Qui donc faisait finalement le succès du premier opus entre autres. On n'apprend rien non plus sur les personnes en fait qui étaient à la base en surface et qui avaient construit une mine aux alentours de la grotte. On reste finalement face à un film qui reprend un peu tous les éléments intéressants de Neil Marshall mais sans rien apporter de plus. Et au final, les 2 heures du film se passent et puis on en ressort comme on en était rentré.
Voilà, et tout ça pour 15 millions de dollars.
Voilà. Bah ouais, c'est ça, ouais. Eh oui. C'est un peu triste. C'est un peu triste, ouais, de voilà, les suites.
On passe à tout autre chose, hein, oui, parce que là, c'est du Guy Madin, donc...
Voilà, donc ça va être très différent. Alors aujourd'hui, en fait, sort en salle un film dont nous aurions pu vous parler il y a plus de 6 mois,
oh oui,
parce que nous avions eu la chance d'assister à l'avant-première organisée au Diagonale le 30 mars dernier. Donc il s'agit de Winnipeg, mon amour, de Guy Madin, une nouvelle réalisation de ce cinéaste canadien hors du commun qui nous avait offert par le passé plusieurs petites perles du 7e art, comme Dracula, Page tirée du journal d'une vierge, sorti en 2003, ou The Saddest Music in the World, sorti en 2006. Alors avec son nouveau film, Guy Madin continue ses expérimentations cinématographiques qui avaient accouché l'année dernière du film Des trous dans la tête, dont j'avais parlé ici lors de sa sortie. Et Winnipeg, mon amour, n'est donc ni un documentaire, ni une autobiographie, ni un film expérimental, c'est un peu tout ça à la fois. En fait, Guy Madin est originaire de cette ville du Canada chargée d'histoire, et le réalisateur a souhaité faire de ce film une lettre d'adieu à la ville qu'il l'a vu grandir, et où il a réalisé la plupart de ses œuvres, mais qu'il n'arrive pas à quitter. Alors le parti pris est donc d'exorciser ce qui peut encore le retenir en ce lieu, ses traumas infantiles, ses incompréhensions, mais aussi sa fascination pour cette cité qu'il habille de légendes diverses, toutes plus fantaisistes les unes que les autres. Nous découvrirons donc Winnipeg à travers les yeux du réalisateur, donc ses caractéristiques si particulières, avec son taux de somnambulisme record qui a amené les autorités à édicter une loi qui oblige les habitants à accueillir chez eux tout somnambule égaré, une ville qui s'est bâtie à l'intersection de la rivière Rouge et de la rivière Assiniboine, un carrefour historique que les natifs empruntaient déjà bien avant que le moindre homme blanc pointe le bout de son nez en Amérique. Mais cet embranchement de rivière, cette fourche, comme l'appellent les Winnipegois, n'est en fait que la partie visible de ce nœud énergétique et magique qui a fait de Winnipeg la ville des fantômes et des esprits, puisque dans les profondeurs de la terre, sous Winnipeg, deux rivières souterraines viennent elles aussi s'en mêler, comme un squelette enfoui de la fourche que chacun peut voir en surface. Alors vous ne savez pas où se trouve le plus petit jardin public du monde, vous n'avez jamais entendu parler de ces sans-abri qui se cachent sur les toits des immeubles abandonnés, ni de ce terrible incendie au champ de course qui s'est soldé par la noyade de dizaines de chevaux et par un incroyable baby-boom l'année suivante. Eh bien Guy Madin se charge de vous éclairer sur tous ces sujets. Mais bon, en voulant s'intéresser au pouvoir que cette ville exerce sur lui et qui l'empêche de tout abandonner, Madin s'est également retrouvé confronté à la question de son enfance, de son rapport personnel à la ville. Le réalisateur va donc mettre en scène à l'intérieur de son film une reconstitution de sa jeunesse, convoquant des comédiens pour interpréter les membres de sa famille et recréant de façon artificielle dans sa maison d'enfance les drames du passé qu'il souhaite exorciser. Donc en procédant de cette manière, en jouant avec une mise en abîme presque naïve, Madin aurait pu facilement sombrer dans un narcissisme agaçant. Heureusement, comme il est entre guillemets rompu à cet exercice depuis son précédent film, où il mettait déjà en scène un Guy Madin personnage ainsi que sa famille, mais bon, vu par le prisme du cinéma, eh bien la plupart du temps, ces séquences intimes jouent sur le décalage, voire sur l'humour, et parviennent à éviter les écueils d'un cinéma psychanalytique et barbant. Donc pour mettre sur pied son documentaire autobiographique, le réalisateur a une nouvelle fois utilisé différents formats de pellicule, en passant allègrement du Super 8 au 16mm, puis à la HD, dont le résultat ne lui a d'ailleurs pas particulièrement plu, hein, ce qui l'a poussé à projeter les séquences tournées en numérique sur son frigo et à filmer la projection en 16mm. Voilà, pour obtenir un résultat qui lui convienne mieux. Alors il a également mélangé à ses propres images des documents d'archives qui viennent d'une certaine façon accréditer ses élucubrations et autres scènes oniriques issues directement de l'imagination bouillonnante du réalisateur. Et certaines scènes sont traitées en animation, le film est fréquemment ponctué de bons titres comme c'était déjà le cas dans Des trous dans la tête. Bref, Guy Madin fait appel à peu près tous les outils qui lui passent sous la main pour donner vie à sa vision fantasque de son Winnipeg. Voilà, le titre anglais, c'est My Winnipeg. Donc Madin nous offre un film assez étonnant qui mythifie complètement sa ville natale en déterrant des anecdotes qui sont pour la plupart trop farfelues pour avoir été inventées. Winnipeg, mon amour, est un film inclassable qui évoque David Lynch, qui évoque le cinéma soviétique, Terry Gilliam, ou encore la nouvelle vague et ses jeux formels avec le cinéma. Et bon, on sort de la salle avec l'envie d'aller découvrir de nos propres yeux cette ville de mystère et de légende. Donc tu l'avais vu lors de cette avant-première, ouais, aussi, Vincent.
Voilà. Mais comme tu l'as rappelé, ça fait 6 mois.
Oui.
Mais il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit. C'est vrai que formellement, c'est quelque chose d'absolument étonnant. entre le documentaire et la fiction et l'autobiographie. Après, quand tu le rapproches de Lynch, de Gilliam et ainsi de suite, c'est sans doute un peu tout cela, mais nettement plus radical, quoi. C'est plus un cinéma expérimental qu'un cinéma qui se voudrait accessible au plus grand nombre, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs un reproche.
Bah pour Gilliam, oui, c'est plus les animations et puis des légendes farfelues un peu, puis même une certaine mise en scène un peu carton-pâte avec des effets volontairement bâclés ou je ne sais pas comment dire. Pour David Lynch, par contre, moi je pense qu'il y a des hommages vraiment évidents. Au début du film, par exemple, où on voit un personnage qui évoque complètement le personnage qu'on voit au début de Razorhead, qui est une sorte d'aiguilleur aussi. Et le film commence, Winnipeg commence sur un aiguilleur aussi. Et puis, un côté très, comme tu dis, expérimental, très onirique, qui évoque Lynch.
Mais parfois drôle en plus. Et puis, moi, je me souviens de la voix off, donc c'était lui qui en fait, fait la.
Ah oui, c'est lui qui fait la voix off.
C'était très drôle. Mm.
C'est vrai qu'il y a beaucoup
de... Bonne utilisation de la voix off, je trouvais. Ouais. Enfin, du narrateur.
Voilà, de commenter des anecdotes réelles, puis d'autres moins réelles, puis mettant en scène cette reconstitution de son enfance. Alors, avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter juste les premières minutes du film qui met d'entrée de jeu le spectateur face à ce jeu de miroir auquel le cinéaste se livre grâce à la mise en abîme qu'il construit pour recréer le décor et les situations de son enfance. Alors on entend ici un extrait d'une répétition avec Anne Savage, qui joue dans le film le rôle de la vraie mère de Guy Madine, donc la seule à ne pas avoir été remplacée par une comédienne pour la reconstitution. Voilà. Bon, je sais, c'est assez tordu. Donc voilà, en fait, ça c'est vraiment les toutes premières images, une sorte de... presque de note d'intention dès le début.
I wasn't born yesterday, dearie.
I wasn't born yesterday, dearie.
I know all about fur and all about blood.
I know all about fur and all about blood.
Where did it happen?
Where did it happen? In the back seat.
Where did what happen?
The real party.
We'll just do that over again. The real party. Did he pin you down?
The real party. Did he pin you down?
Or did you just lie back and
lie back and let nature take its course?
Or did you just lie back and let nature take its course?
Or did you just lie back and let nature take its course?
Was it a boy on the track team or the man with the tire iron?
Was it the boy on the track team or the man with the tire iron?
Okay, a little angrier. Was it a boy on the track team?
Was it the boy on the track team or the man with the tire iron?
Excellent. Cut it.
Winnipeg, Winnipeg, wonderful Winnipeg, hail my town, hail my home, the world that moves round and round, Winnipeg, Winnipeg.
Voilà donc les premières secondes, minutes du dernier film de Guy Matin. Alors je m'excuse pour la qualité du son, c'est un extrait trouvé sur internet et... Et bon, voilà, donc ce ne sont pas des expérimentations sonores du réalisateur. Non, c'est bien la qualité déplorable de cet enregistrement.
On a fait pire.
Ouais. C'est vrai.
On passe à une deuxième chronique de ta part, Boris.
Oui, donc là, un cinéma d'art et d'essai, complètement, que vous pourrez donc découvrir en salle aujourd'hui au Diagonale. Sinombré en espagnol sans nom, et ben c'est l'histoire de la rencontre et de la fuite commune de Casper, membre d'une cellule mexicaine du terrible gang de la Mara, et de Serra, jeune émigré provenant du Honduras. Casper, âgé d'une quinzaine d'années, est rusé et aguerri aux rouages et aux procédures du gang local dirigé par le numéro 1, l'île Mago, dont il est un des hommes de confiance. Mais secrètement, Casper aspire à la liberté et l'indépendance et rejoint régulièrement, durant ses heures de travail, entre guillemets, l'amour de sa vie, Martha Marlène. Évidemment, dans le secteur du gang, nul secret ne le reste très longtemps et la désobéissance de Casper ne tarde à arriver aux oreilles de Mago, qui entreprend de châtier son ex-protégé. Ainsi, tandis que le mécanisme de la loi du gang se met en branle, dérape et arrache la vie de Martha Marlène, c'est dans le cercle vicieux de la violence et de la vengeance que tombe Casper. En mission de collecte de fonds sur les trains de marchandises qu'empruntent illégalement et sans discontinuer les émigrants d'Amérique centrale pour rejoindre la frontière nord-américaine, Casper et Mago tombent sur la famille de Serra que ce dernier tente de violer. Le sordide spectacle achève la réticence de Casper à assouvir son désir de vengeance, et c'est d'un coup sec de machette que celui-ci commet l'irréparable. Désormais orphelin de sa famille de voyous, Casper va trouver en la personne de Sarah une alliée inattendue, en compagnie de laquelle il va tenter d'échapper aux représailles du gang et de gagner la frontière américaine. Alors Sinombre entame son récit par un état des lieux des banlieues pauvres du Mexique. Le spectateur sera ainsi plongé, à la manière d'un cité de Dieu délocalisé au Mexique, dans le quotidien de ces mareros, composés de trafics en tout genre, de rites initiatiques brutaux et souvent amoraux, d'expositions permanentes à la mort. Le tout néanmoins largement préféré à la pauvreté de leurs conditions d'habitants de zones défavorisées. L'autre dimension sociale que donne à voir le film sera bien sûr celle de ces immigrants des pays voisins du Mexique, qu'une même précarité pousse à quitter pour rejoindre l'Eldorado américain. Ces hommes et femmes ne reculent devant aucune difficulté ni aucun danger dont est pourtant bardé le périple à effectuer pour passer la frontière. Sinombre a ainsi beau comporter tous les signes distinctifs du thriller haletant, le travail du réalisateur Fukunaga ne saurait être réduit à cela, et il est vraiment mérité de saluer la performance de ce film qui allie subtilement un traitement efficace du genre et retranscription d'une grave réalité sociale. Donc là, c'est en fait le deuxième film hein, qui sort sur ce thème donc, de ces gangs donc, qui sont un peu sur le modèle des gangs de Los Angeles. Voilà, c'est en gros des gangs que la précarité a conduit à former. Donc le précédent film qui est sorti il y a 3 semaines de ça au CGR, en version française il me semble, c'était La Vida Loca. Alors là pour le coup c'était un réalisateur français, Christian Poveda, qui l'avait réalisé. Et c'est un documentaire donc filmé en immersion complète à San Salvador dans l'un des deux gangs qui se livrent une guerre terrible. Donc il y avait le 18 et puis le MS Mara Salva Trucha. Donc là pour le coup ça c'est une fiction Sinombre, donc ça sera peut-être un peu moins criant de vérité. Ceci étant dit, il y a quand même énormément d'éléments qui crédibilisent complètement eh bien, les conditions donc, de ces différents personnages, et ça rend le film assez intéressant. Moi je pensais donc dans un laps de temps très court aller voir ce Vida Loca. Il a été quand même bien accueilli par la critique, au point où même son réalisateur s'est fait tout simplement trucider quoi, par les gangers du Mexique. Alors pas du Mexique pour le coup, de San Salvador, mais bon, c'est un peu ces gangs en fait se sont développés sur un peu toute l'Amérique centrale. Et puis aussi donc aux États-Unis quoi. Ouais.
C'est un peu la loterie hein, quand on est en immersion comme ça. Enfin, visiblement, il avait acquis la confiance de ces gangs et puis leur famille. Je crois qu'il était resté au moins 2-3 ans. Hein,
oui, facilement. À la base, il est. C'est un documentariste qui a fait pas mal de trucs en Amérique centrale. Donc c'est vrai qu'il avait de toute manière déjà une sorte d'entrée quoi, dans ce genre de pays, puis aussi dans ce genre de population. Mais là, apparemment, ça s'était quand même bien passé. Il y a sur le site du film des informations. Le site est assez fourni. Et il y a des informations donc, très intéressantes sur justement la réalité du tournage et puis lui de son implication. Qui permettent de vraiment au final être assez apeuré quoi, par ce qui lui est arrivé en définitive quoi.
Mais tous ces gangs, hein, moi j'ai vu une expo donc, dans le cadre du festival Visa pour l'image de Perpignan cette année, donc festival de photo-reportage, alors c'était au Salvador, et c'était les images les plus violentes qu'on pouvait voir, c'est-à-dire que toutes les trois photos il y avait un meurtre quoi. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant comment les gens tombent, enfin voilà, tous ceux qui sont en relation avec les gangs, c'est énorme quoi.
Ouais.
Après, c'était soit donc des images de meurtre, soit des images de prison. Voilà. Enfin, on avait le choix entre le meurtre ou la prison, et puis après quelques rares images où il se passait rien, quoi.
Ah, mais c'est pour ces couches défavorisées, visiblement. Enfin, ce qui est donné à partager, en tout cas, c'est à voir, c'est que voilà, il y a très peu d'échappatoires si les gens n'acceptent pas la misère de leur site, de leurs conditions. C'est ouais, la porte ouverte au crime, et puis alors là c'est parti, c'est un engrenage qui est clôturé pareil par la mort quoi, enfin, par l'emprisonnement effectivement. Et pareil, on voit aussi, je me suis un peu renseigné sur la question, pas l'incompétence, mais bon, l'impuissance des forces de police quoi, dans ces quartiers-là quoi.
Visiblement, ça c'est le cas aussi dans toute l'Amérique du Sud, puisqu'on se souvient qu'au Brésil, il y avait eu des affrontements entre policiers et puis gangs suite. Suite donc au déplacement éventuel d'un chef de gang d'une prison à une autre, il avait lancé des attaques contre la police. Donc on voit que là-bas, ça charge. On rappelle qu'au Brésil et j'imagine aussi dans les autres pays, Salvador et ainsi de suite, le port d'armes est autorisé. Voilà. C'est une des questions qu'on pourrait se poser. Sinon, il me semblait que le réalisateur de Ciné Nombre, il avait fait le chemin, lui, de ces gens-là qui traversent... Il me semble qu'il l'a expérimenté, j'ai lu ça. J'ai lu ça, ouais, il a expérimenté effectivement ce voyage sur les trains.
Là par contre, on voit les immigrés qui sont entassés sur des trains de marchandises en fait, directement sur le toit. Ouais. Et par dizaines quoi.
Ouais. Mais il l'a fait à trois reprises, voilà, c'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps.
Et là c'est pareil, il y a les services de police au niveau des frontières qui sont quand même relativement vigilants et ça représente pour eux un danger de plus qui les conduit à revenir au point de départ. Sachant que la plupart du temps, ils recommencent quelques mois après. Quoi.
Donc, Ciné Nombre, ça passe au Diagonal Capitole, j'imagine.
Oui.
Oui, on a guère le choix. D'accord.
En version originale, oui, voilà. C'est d'ailleurs, encore une fois, très bien de voir ce genre de film en VO.
Évidemment. Donc, après avoir parlé de nombreuses sorties d'aujourd'hui, on va parler d'un événement futur. C'est le Festival du Ciné Méditerranéen, le fameux Cinémed, qui débute ce vendredi soir avec une grande avant-première, celle du film d'Amenabar, Agora. Et on a rencontré Jean-François Bourgeou, le directeur du festival, qui nous en parle.
C'est un film très très attaché au soubresaut de l'histoire méditerranéenne puisqu'il se passe au 4e siècle après Jésus-Christ à Alexandrie. Alexandrie dont la très belle bibliothèque, vous le savez, hein, c'est pas un scoop, a été détruite. Donc voilà, c'est un petit peu autour de ce moment-là quand les religions s'excitent un petit peu, quand Rome a encore le pouvoir sur le bassin méditerranéen. Et on voit une héroïne, on va découvrir une héroïne du passé qui est une héroïne qui a existé, dont malheureusement on n'a pas connaissance des travaux particuliers, c'était une scientifique et une philosophe, puisque ces travaux ont été détruits dans la dite bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, donc c'est un film qui me paraît très attachant, moi, pour ouvrir ce festival. C'est un film prestigieux, d'un cinéaste prestigieux, mais c'est aussi quelque chose qui est au plus près, je dirais, des contradictions et des frictions méditerranéennes, puisque ça évoque très directement les intégrismes religieux. Et ça, en plus, ça a le mérite quand même de mettre au premier plan une femme de l'Antiquité, ce qui n'est pas si commun, parce que je crois que là, ça va être une découverte pour beaucoup. Je crois que l'idée qu'on se fait de l'intelligence officielle reconnue de ces périodes-là, c'est plutôt des mecs. Hein. Les philosophes grecs, ce sont des garçons. Bon, et là, voilà, l'héroïne, c'est une femme, et c'était une femme qui, en plus... dit-on, était belle, donc ça n'enlève rien au plaisir, mais enfin, c'était surtout une femme intelligente, instruite, et qui avait pour, véritable vocation, la transmission du savoir. Donc c'est, je pense, aussi un film qui parle de la transmission. Qu'est-ce que c'est à l'époque, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, la transmission ? Le nouveau film de Mirza Kalouach, Aragas, qui est un film beaucoup plus intime, beaucoup plus directement contemporain, avec donc ces fameux exilés, ou ces candidats à l'Europe, ces candidats un petit peu au mirage quoi, d'une Europe qui serait plus douce, qui serait plus agréable. Et donc l'histoire de tous ces migrants qui choisissent les pires risques pour quitter leur chez eux, pour quitter finalement des territoires où ils ne peuvent plus vivre, où ils ne savent pas vivre, hein, où on ne les aide pas à vivre. Donc ça, c'est un film, je dirais, un petit peu symbolique et emblématique de ce thème qu'on retrouve et qui traverse toujours le festival de part en part, qui est le thème de l'exil. Enfin, l'exil étant quelque chose de très 20e siècle et qui est encore plus marqué peut-être en ce début de 21e siècle. Alors, on verra également un film qui parle un petit peu des spectres et des traces douloureuses de l'histoire avec Angelopoulos. C'est Angelopoulos qui sera là pour nous présenter lui également avec une de ses comédiennes, Irène Jacob, The Dust of Time, La poussière du temps, un film qui n'a jamais été montré encore en France, hein, simplement au marché à Cannes, mais qui avait été présenté hors compétition au dernier festival de Berlin. Donc un très grand film en présence d'un très très grand auteur de la Méditerranée, Théo Angelopoulos. Et puis il y aura également Tétro qui sera pour la soirée de Palmarès, donc le nouveau film de Francis Coppola. Mais il y aura également des films français, le film posthume de Claude Berry, Trésor. Je tenais à le montrer d'abord pour le faire connaître, pour que les gens après voient ce film en salle. Hein. Il va sortir, il est daté bien sûr, mais c'est un petit peu... pour rendre hommage à un coup de chapeau à Claude Berry, hein, Claude Berry qui est mort 2 jours après le début du tournage, donc qui aura eu pour dernière douleur, je dirais, ne pas voir son dernier film lui-même. Bon, mais c'est François Duperron, on le sait, qui a réalisé techniquement la mise en scène de ce qu'était la volonté de Claude Berry. François Duperron qui sera là d'ailleurs le lendemain, qui pourra évoquer ce tournage. Alors il y aura encore une autre avant-première, pas vraiment enracinée dans la Méditerranée, qui est le nouveau film de Xavier Giannoli, qui s'appelle « À l'origine », un film qui avait été présenté en compétition à Cannes, qui a été remonté. C'est-à-dire que la version qu'on va voir, ça va être la version définitive d'exploitation. Il sera là pour le présenter avec une de ses comédiennes, qui est une très très grande comédienne du cinéma français, qui est Emmanuelle De Vos. Il y a encore d'autres avant-premières, et bien sûr toutes les avant-premières que constitue la sélection officielle, puisque les films que nous montrons en compétition ou en panorama sont des films inédits en France, hein, par définition. J'en ai oublié deux qui sont importantes, parce que là encore, ce n'est pas un film tout à fait méditerranéen, mais régulièrement, c'est arrivé à Cinémède d'inviter l'Iran. Il y aura donc Les Chats Persans, qui est présenté en avant-première. Et là, on invite un petit peu, parce qu'il est vraiment en phase par rapport à l'actualité un peu douloureuse de ce pays. C'est important de montrer ce film. Et puis, un autre film qui, lui, me paraît aussi important, qui est un film qui est sur un registre qui n'est pas vraiment celui de la comédie, mais qui est, disons, un cinéma un peu pour le grand public, avec Christian Clavier et Clovis Cornillac, qui s'appelle La Sainte Victoire. C'est un film de François Favra qui traite du thème de... Que devient la vie d'un individu, que devient son parcours, ses états d'âme quand il se lance vraiment dans la politique et qu'il veut réussir en politique.
Voilà, donc c'était Jean-François Bourgeot, directeur du festival, qui nous parlait donc des avant-premières. On précise que The Dust of Time de Théo Angelopoulos, qui sera l'invité du festival, eh bien c'est le 24 octobre à 16h30. Pour Agora, donc ça c'est la soirée d'ouverture réservée immédiatement, parce qu'il y aura plein de monde, c'est ce vendredi soir. Et puis sinon, Trésor, le fameux film de Claude Berry qui n'a pas pu tourner entièrement et donc réalisé par François Duperron, c'est le 24 octobre à 19h. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà pour ce week-end. Après, on va écouter donc aussi eh bien, l'hommage à Elio Petri. Jean-François Bourgeot va nous expliquer qui est Elio Petri.
Pour Elio Petri, c'est simple. L'idée, elle est venue du fait qu'on a constaté l'an dernier un petit réveil d'une approche frontale de la politique dans le cinéma italien, avec des films comme de Sorrentino, comme Il Divo, comme Gomorra, de Matteo Garrone, bon, des choses comme ça. Et on s'est dit, tiens, ça gigote un peu, et d'où il vient ce cinéma-là? Et on s'est rendu compte que quelqu'un était devenu un grand, grand disparu du cinéma italien, c'est Elio Petri. Elio Petri qui accomplissait dans les années 60-70 la performance d'être à la fois reconnu par la critique, recevant des lauriers, que ce soit à Hollywood ou à Cannes, donc des lauriers prestigieux, et qui remplissait aussi les salles. C'est-à-dire qu'il faisait un cinéma politique populaire. Comme on pourrait dire que les Italiens faisaient de la comédie un peu intelligente, la comédie sociale italienne populaire. Et donc, ça nous a paru intéressant de ressortir un peu ces films. Alors, certains sont des titres qui vont parler aux gens, hein, comme « Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon », dont on va présenter une copie neuve qui a été restaurée par la Cinetica de Rome, et avec Gian Maria Volonté. Je rappelais d'ailleurs à un de vos confrères que Gian Maria Volonté, son premier film, c'était Sous le signe du scorpion, de Frère Taviani, qu'on a présenté l'an dernier dans le cadre de l'hommage à Taviani. Donc Gian Maria Volonté, qui est effectivement une des personnalités fortes du cinéma italien, assez fortement marquée par son appartenance à un cinéma politique, un cinéma directement politique, que ce soit chez Rosi, que ce soit chez... Bon, etc. Donc voilà, ce sera le plaisir de revoir un peu ces films-là. Elio Petri est quelqu'un qui est mort un peu prématurément. Hein. Il était jeune et donc il est devenu un petit peu, il est tombé un petit peu dans l'oubli. Donc on va essayer un peu de réparer ça, et notamment en compagnie de sa veuve, Madame Paola Petri, qui sera là pour parler de lui. C'est elle qui a suscité un documentaire qui a été fait sur lui récemment, qu'on va présenter, qu'elle-même présentera d'ailleurs à Montpellier. Et puis, il y aura un ami du festival, qui est Jean Gilly, qui est critique à Positif, et qui est un des programmateurs du fameux cinéma italien d'Annecy.
Bon, ben voilà, il a presque été exhaustif. Là, on rappelle juste un horaire, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, dont il a été question. C'est ce dimanche 25 octobre à 19h, et c'est au Corum. Donc voilà, le cinéma démarre vendredi. On reviendra dessus la semaine prochaine, j'imagine. Voilà, ça va bientôt se terminer. T'as des choses à ajouter? On a encore une minute.
Non, bon, j'avais prévu de parler un peu rapidement du reste des sorties en salle de ce mercredi, vu qu'on avait déjà parlé de la plupart. Alors par exemple, The Children de Tom Shankland, un film d'épouvante qui va nous faire passer un réveillon de Noël qui dérape salement et dont les boogeymen sont bien évidemment les enfants du titre. Donc de quoi faire flipper tout un chacun au moment d'aller border nos chères têtes blondes. Sinon toujours dans la catégorie épouvante, mais teinté cette fois d'un côté teen movie, voici enfin le film qui devrait ravir tous les fans de l'affolante Megan Fox, donc la seule véritable réussite des deux Transformers de Michael Bay, la comédienne qui fait méchamment fantasmer la moitié de la population masculine terrestre, l'autre moitié fantasmant bien évidemment sur Scarlett Johansson. Eh bien, cette comédienne joue dans Jennifer's Body de la réalisatrice Karim Kusama. Donc voilà, si vous en avez marre de vous palucher sur Jason Statham, je ne peux que vous conseiller d'aller vous remplir les yeux de la plastique honteuse de Megan. Et bon, le film, on s'en fout un peu. Voilà. Donc voilà, sinon il y a White Out également de Dominique Sena qui sort, mais je vous conseille plutôt les bandes dessinées dont ont été adaptées ce long métrage. Ouais, bandes dessinées de Greg Rucka et Steve Lieber qui méritent vraiment le coup d'œil. Et puis bien sûr Lucky Luke, voilà, Tempête de boulettes géantes également.
J'ai lu de très bonnes critiques sur Tempête de boulettes géantes, c'est un peu contre la malbouffe et ainsi de suite, c'est, comme c'est pour les enfants, enfin pourquoi pas.
Un film un peu éducationnel. Tu nous feras une chronique la semaine prochaine, Vincent.
Bon, il y a peu de chance, je vais être surtout pris par le cinéma de moi, en ce qui me concerne. Voilà, donc moi, c'est sûr, je préparerai sur le cinéma de la semaine prochaine, et quant à vous, surprise.
Bah, Tempête de boulettes géantes et Lucky Luke. Hein.
Nuit en enfer, elle sera passée la nuit en enfer ou...
Non, voilà, on pourra la préparer.
Ok.
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve donc la semaine prochaine. On remercie à la technique Julia.
Merci Julia.
Et Desparelli. La semaine prochaine. Oh.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, Monseigneur, il est 8 heures, oui, oui, oui. Il en manque une.
Cinérama.
Vous êtes sort? Tout à fait sort.
Alors. Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
alors. Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.